Chapitre 3. Malgré la promesse de Holmes de les emmener dans un endroit bien éclairé, James s'attendait à un obscur troquet isolé donnant sur une ruelle sombre. Au lieu de quoi, Holmes le conduisit au Café de la Paix, à l'intersection du boulevard des Capucines et de la place de l'Opéra, dans le 9e arrondissement, tout près de l'hôtel de l'écrivain. Le Café de la Paix était l'un des plus vastes, des plus scintillants et superbes établissements de Paris, qu'égayait seulement, par la flamboyance de son décor et le nombre de ses miroirs, l'opéra de Charles Garnier situé sur la même place. Le restaurant avait ouvert en 1862 pour accueillir les clients du Grand Hôtel de la Paix et était devenu célèbre pendant l'exposition universelle de 1867. Ça avait été l'un des premiers bâtiments publics parisiens éclairés à l'électricité. Mais comme si les centaines de milliers d'ampoules électriques ne suffisaient pas, des lanternes à prismes envoyaient en plus des faisceaux lumineux sur les grands miroirs. Henry James avait toujours évité cet endroit, ne serait-ce que parce qu'on était sûr, en y dînant, de tomber sur des amis et connaissances. C'était du moins ce qui se racontait à Paris, tant le café était couru. Et Henry James préférait choisir les lieux et les moments où il tomberait sur de vieux amis et connaissances. Holmes ne sembla pas dérangé par la foule, le vacarme des conversations, ni les dizaines de visages curieux qui se levèrent à leur entrée. James entendit le faux explorateur norvégien demander sa table habituelle au maître d'hôtel, dans un français fluide et bien accentué, et on les guida jusqu'à une petite table ronde, un peu à l'écart de l'agitation. « Vous venez suffisamment souvent ici pour avoir une table habituelle ?» demanda James quand ils furent seuls. Ou aussi seul qu'il puisse l'être compte tenu du bruit et du tohu-bohu. J'ai dîné ici au moins 3 fois par semaine depuis mon arrivée à Paris il y a 2 mois, répondit Holmes. J'y ai vu des dizaines de personnes que je connais, des policiers avec qui j'ai collaboré dans mes activités de détective et d'anciens clients. Aucun n'a prêté attention à mon déguisement de Jan Sigurdsson, ni ne l'a percé à jour. Avant que James ait pu répondre, le garçon se présenta à leur table et Holmes eut l'outrecuidance de commander très vite pour eux deux. Il choisit un très bon champagne et, peut-être en raison de l'heure tardive, le grand menu d'après-spectacle comprenant du potage, du civet de lièvre, un plateau de fromage affiné, un assortiment de figues, abricots et pruneaux en marmelade au thé de Ceylan et une mousse au chocolat pour finir. James n'avait pas d'appétit. Son estomac délicat était dérangé après les chocs de la dernière heure. En plus, il n'aimait pas le lièvre, surtout en civet, avec la lourde sauce farineuse servie par-dessus. Les fruits ne le tentaient pas du tout ce soir, et pour en avoir abusé quand il était petit garçon, il détestait la mousse au chocolat. Il ne dit rien. Il brûlait de découvrir comment Holmes, ce sorcier au rabais, avait deviné que les cendres d'Alice se trouvaient dans la tabatière, mais plutôt mourir que d'aborder le sujet dans cet endroit public. Même s'il était vrai qu'entre les conversations et les rires des dîneurs et la position de leur table, personne n'aurait pu les entendre. Mais la question n'était pas là. Tandis qu'il sirotait le très bon champagne, Holmes demanda « Avez-vous lu mon avis de décès dans le Times il y a presque 2 ans ?»« Des amis m'en ont parlé. » »« Moi, je l'ai lu. » Le journal datait de 3 semaines. J'étais à Istanbul à l'époque, mais je l'ai lu. De même que l'interview de ce pauvre Watson, décrivant ma mort dans les chutes de Reichenbach, au cours d'une bagarre avec le Napoléon du crime, le professeur James Moriarty. Henry James aurait préféré rester silencieux, mais il savait qu'on attendait de lui qu'il remplisse son rôle d'interlocuteur. Comment avez-vous survécu à cette terrible chute, monsieur Holmes ? Holmes rit et balaya des miettes sur sa moustache noire hérissée. « Il n'y a pas eu de chute, pas de bagarre, pas de Napoléon du crime. Pas de professeur James Moriarty ?» Holmes pouffa, puis se tapota les lèvres et la moustache avec la serviette blanche en lin. « Aucun, j'en ai peur. Inventé de toutes pièces pour servir mon objectif. Celui de disparaître en l'occurrence. » Mais Watson a raconté au Times de Londres que ce professeur Moriarty était l'auteur d'un livre, « La dynamique d'un astéroïde », insista James. « Également inventé par moi », reprit Holmes avec un sourire suffisant. « Ce livre n'existe pas. Je l'ai cité à Watson uniquement pour qu'il puisse plus tard donner à la presse et à son inévitable récit des événements publié il y a peu dans sa nouvelle « Le dernier problème » de la, comment dites-vous, vous les écrivains, de la vraisemblance. Oui, c'est le mot, de la vraisemblance. Mais ce détail ayant été mentionné dans les différents comptes rendus de votre mort, à Moriarty et vous, les gens ne risquent-ils pas de chercher cet ouvrage, la dynamique d'un astéroïde, ne serait-ce que par simple curiosité? S'il n'existe pas, toute votre histoire des chutes de Reichenbach s'effondre. Holmes balaya l'argument avec un rire et un geste de la main. Oh, j'ai indiqué à Watson qu'il a à son tour indiqué à la presse qu'il s'agissait d'un livre illisible portant sur des mathématiques complexes. Un ouvrage culminant à de tels sommets irrespirables de pure mathématique qu'aucun rédacteur de la presse scientifique n'était apte à en donner une critique. Tels ont été mes propos exacts. De quoi décourager toute curiosité. Je me rappelle aussi avoir dit à Watson que le célèbre ouvrage de Moriarty, célèbre uniquement dans les cercles de mathématiciens, avait été tiré à un si faible nombre d'exemplaires qu'il était sans doute introuvable aujourd'hui. Donc, vous avez sciemment menti à votre ami à propos de ce Napoléon du crime, dans le seul but de voir le docteur Watson répéter vos inventions à la presse, martela James, espérant que la froideur de son ton n'échapperait pas à Holmes. « Oh oui, » dit Holmes avec un léger sourire. « Absolument. » James resta silencieux un instant. « Et si le docteur Watson était appelé à témoigner sous serment, reprit-il, dans le cadre d'une enquête concernant votre décès, peut-être ? S'il y avait dû avoir une telle enquête, elle serait finie depuis longtemps. Presque 2 années se sont écoulées depuis cette histoire. Tout de même... » Watson ne se serait pas parjuré avec un tel témoignage, l'interrompit Holmes montrant une très légère irritation. Parce qu'il croyait sincèrement que Moriarty était le Napoléon du crime, tout comme il croit que je suis mort avec Moriarty dans les chutes du Reichenbach en Suisse. James cligna plusieurs fois des paupières malgré ses efforts pour demeurer impassible. Vous n'éprouvez aucun remords d'avoir menti à votre meilleur ami? La presse a annoncé le décès de l'épouse du docteur Watson depuis votre disparition. Il y a donc tout lieu de penser qu'en ce moment même, le pauvre homme pleure la mort de sa femme et celle de son meilleur ami. Holmes se resservit de fruits. J'ai fait plus que mentir, monsieur James. J'ai lancé Watson dans une vaine quête, à la poursuite du mythique Moriarty, vous comprenez ? À travers l'Angleterre et l'Europe, jusqu'aux légendaires chutes d'eau où ni le corps du professeur Moriarty ni le mien ne referont jamais surface. C'était monstrueux. C'était nécessaire. Je devais disparaître complètement, voyez-vous. Disparaître sans laisser de traces et d'une manière qui persuaderait la multitude, ou du moins cette petite partie de la multitude qui s'est intéressée à mes modestes aventures, que j'étais mort. La nouvelle de mon décès a-t-elle fait beaucoup pleurer à Londres ? James scia encore, sûr que c'était de l'humour, du moins jusqu'à ce qu'il voie l'expression sérieuse sur le visage grimé de Sherlock Holmes. « Oui, » répondit-il. « Enfin, d'après les bruits qui ont couru. » Holmes attendit. Au bout d'un instant, il reprit. « Le récit qu'a fait Watson de l'histoire du Reichenbach est apparu dans le Strand il y a seulement 3 mois, en décembre 1892. Mais je suis curieux de connaître les réactions aux articles sortis il y a 2 ans. » James réprima un soupir. « Je ne lis pas le Strand, mais j'ai entendu dire qu'à l'annonce de votre mort, puis de nouveau cet hiver après la parution du dernier problème du docteur Watson, des jeunes gens à Londres se sont mis à porter des brassards noirs. Il était vrai que James n'aurait jamais lu les histoires à l'eau de rose, les articles de vulgarisation scientifique et les potins publiés dans le Strand. Mais ses jeunes amis, Edmund Goss et Jonathan Sturges, en étaient friands. Et tous deux avaient porté des brassards noirs pendant des mois en souvenir de Holmes. James avait trouvé ça ridicule. Sherlock Holmes souriait en terminant sa mousse au chocolat. Henry James, craignant toujours qu'ils en reviennent au contenu de sa tabatière s'il laissait Holmes diriger la conversation, demanda « Pourquoi organiser une telle supercherie, monsieur ? Pourquoi trahir votre bon ami le docteur Watson ainsi que des milliers de fidèles lecteurs s'il n'existait pas de vaste complot criminel, pas de Napoléon du crime? Quel pouvait être votre mobile? De la pure perversité? Holmes reposa sa cuillère et regarda l'écrivain en face. « J'aurais aimé que ce soit si simple, monsieur James. Non, j'ai décidé que je devais mettre en scène ma propre mort et disparaître complètement. Après avoir découvert au cours de mes ratiocinations, via les processus inductifs et déductifs qui ont fait de moi le détective privé le plus célèbre du monde, un fait si terrible qu'il a non seulement changé ma vie de manière irrévocable, mais m'a conduit là où vous m'avez trouvé ce soir près du Pont-Neuf, prêt à y mettre un terme. » Quel simple fait pourrait... commença Henry James avant de refermer la bouche. Il serait fort impoli et présomptueux de poser la question. Holmes esquissa un sourire crispé. « J'ai découvert, dit-il en se penchant plus près, que je n'étais pas une personne réelle. Je suis... comment un homme de lettres comme vous l'exprimerait-il, monsieur James ?» Je suis, j'en ai acquis la preuve irréfutable, une construction littéraire. La création d'un écrivaillon aux doigts tachés d'encre. Rien qu'un personnage de fiction.